Alors, la bibliothèque in situ poursuit les rencontres avec les divers invités de l'exposition Terre-Mer-Signal qui débute tout à l'heure à l'espace multimédia Gantner. Hier, nous avons eu l'occasion d'échanger déjà avec trois des artistes présents et nous retrouvons Grégory Chatomsky pour un petit prolongement à la visite guidée qu'il nous a accordée dans son installation. Alors, Grégory, peut-être avant de proposer cette séquence que je qualifie de bibliographie vivante qui vise à un peu retourner dans le fond et dans la bibliothèque et de survoler, commenter quelques références. J'aurais aimé que tu nous redises en quelques mots ta fonction en plus donc, de tes activités d'artiste, qui est celle d'artiste-chercheur depuis bientôt un an à l'École normale supérieure et d'un séminaire que tu coordonnes. Représenter ceci en quelques mots.
Oui, c'est très rapidement. Donc moi, mon activité principale, tant en termes de temps qu'en termes économiques, c'est toujours important de ramener les choses à leur matérialité plutôt qu'à leur hyperstructure, c'est donc la production artistique. Et par ailleurs, j'ai une carrière académique. J'ai passé 10 ans à Montréal comme professeur à l'UQAM, à l'École des arts visuels et médiatiques. Je suis rentré en France pour, spécifiquement pendant 2 ans, être artiste-chercheur à l'École normale supérieure à Paris. Ils m'ont laissé libre de choisir le sujet que je voulais, donc c'était une vraie chance. J'ai essayé d'aborder un sujet nouveau, parce que je pense que la recherche doit y avoir de l'innovation, et en même temps qui était très proche de mes intérêts immédiats. Donc j'ai décidé de faire un séminaire de recherche avec l'aide de Béatrice Joyeux-Prunel, qui est professeure là-bas, sur l'imagination artificielle, qui est un concept, dont je ne vais pas tracer ici la généalogie, mais qui se présente un peu comme une alternative, un peu plus réflexive, par rapport au discours dominant de l'intelligence artificielle et de ce discours de la Startup Nation qu'on nous assène tous les jours. Et d'essayer de laisser une place à l'art et à la culture dans ces mécanismes-là. Donc voilà, donc on essaye de questionner ce nouveau concept, et c'est assez amusant comme séminaire, parce qu'à la différence de certains séminaires où les gens, on les invite parce qu'ils ont déjà constitué une connaissance, là ils doivent constituer une connaissance en vue de ce séminaire. Donc on est vraiment sur un vrai séminaire de recherche, dans lequel certains intervenants estiment que le concept est valable, d'autres non, etc. Donc ça mène à beaucoup de discussions, c'est assez dynamique, et je fais ça donc cette année et l'année prochaine.
Très bien. Alors, pour poursuivre, donc vraiment avant de rentrer, on va dire, au cœur de ces quelques documents choisis, expliquer justement comment ce choix a été fait. En fait, ce sont des propositions, après t'avoir entendu décrire la pièce que tu présentes, qui est donc, tu vas le compléter certainement, un métaprojet constitué de, en tout cas à ce jour, de 3 parties. Et donc, peut-être, si tu veux en redire un mot, comme ça permettra pour les auditeurs de tisser des liens plus facilement avec les ouvrages qui ont été choisis, on va dire, en rebond à la visite que tu nous as offerte hier soir.
Donc très rapidement, c'est un métaprojet qui s'appelle Terre Seconde, et qui est... un projet sur lequel je travaille depuis un an et demi. Le projet, c'est une machine une machine qui crée un deuxième monde, qui n'est pas le monde que nous connaissons, mais qui y ressemble, qui est une espèce de monde un petit peu alternatif dont la nature est incertaine. Et donc, à partir de là, je fais pas mal de dispositifs qui se réagencent de manière très libre, en utilisant soit ma propre capacité humaine, soit en le mêlant indissociablement à la machine, et en utilisant principalement une technique qui s'appelle les réseaux récursifs de neurones, ou le deep ou le machine learning, où globalement on passe d'un art un peu algorithmique à un art de l'apprentissage. On fournit à la machine des données, et il va faire des choses qui ressemblent. Donc voilà, ça pose plein de questions, bien sûr, mais c'est un peu l'enjeu du projet.
Bien. Alors ben là, maintenant à moi peut-être de présenter succinctement les quelques documents, mais peut-être pas tous, qui ont été choisis. Alors peut-être pour revenir sur l'aspect recherche, séminaire de recherche, j'avais pensé qu'il était peut-être intéressant de, on va dire, encore une fois, prélever ces deux documents. D'une part, donc ça c'est un document imprimé, mais il s'agit au départ d'une application tablette qui a été là pour les besoins, on va dire, de l'archive imprimée, qui retrace l'histoire du collège de philosophie. Et puis là, un document que je trouvais intéressant de te montrer, que tu connais sûrement, qui est la fameuse revue Traverse, on va dire une revue maintenant déjà très vieille, puisqu'elle va bientôt avoir 30 ans.
Ouais.
Et donc voilà, donc ce numéro en particulier, machine virtuelle.
Alors ça tombe bien, parce qu'il se trouve que j'ai des histoires sur les deux.
Ah bah c'est très bien.
Histoire personnelle et autobiographique.
C'est pour ça que
d'abord je peux commencer par la revue Traverse. Voilà. La revue Traverse, moi je suis un enfant des immatériaux, puisque j'avais visité, quand j'avais 14-15 ans, les immatériaux, quand c'était au centre Pompidou. Et c'était à ce moment-là que j'avais décidé, que j'ai vraiment décidé, je faisais déjà de la peinture et du dessin, mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire.
Le déclic, quoi, ce
C'est
projet.
ce déclic-là qui m'a mené vers, je n'appellerais pas ça l'art numérique, mais un art qui pose ces questions-là, la question de la technique, on va dire. Ça a été aussi une rencontre avec Lyotard à ce moment-là, donc une rencontre avec la philosophie importante. Et il se trouve que par rapport à la revue Traverse, non seulement j'ai lu Adolescent, la revue Traverse, qui a pour moi été un cœur de ma réflexion naissante quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans. Et il se trouve que quand la revue Traverse s'est arrêtée, il y a eu le projet à un moment de faire une revue Traverse online sur Internet, quand Internet venait tout juste d'émerger, avec Norbert Hiller qui est en charge de ça. Et Norbert Hiller m'avait demandé, alors que j'étais jeune étudiant, de travailler avec lui sur la revue Traverse online. Donc j'ai fait partie d'une certaine manière de la revue Traverse dans sa nouvelle monture. Et c'est là que j'ai entre autres découvert des auteurs, et en particulier un auteur qui a été important dans mon parcours, qui est Bernard Stiegler, où j'ai lu les premiers textes de Bernard Stiegler, et qui a été important, je dirais, jusqu'au troisième tome de La Technique et le Temps, et où je lisais pas Bernard Stiegler avec une véritable gourmandise, parce qu'à l'époque, il faut s'imaginer qu'on était pris entre Virilio et Baudrillard, c'est-à-dire et Philippe Kehoe et Pierre Lévy, c'est-à-dire soit d'un côté l'enthousiasme complètement fou et moderniste d'un Pierre Lévy et d'un Philippe Kehoe, soit l'espèce de pessimisme cataclysmique d'un Virilio ou d'un Baudrillard. Et je trouvais que Bernard Stiegler était ni l'un ni l'autre, il n'était pas au milieu, il essayait déjà de comprendre ce qui se passait. Alors après, malheureusement, je trouve qu'il est un peu passé d'un côté un peu, je dirais un peu. Je connais le problème et j'ai la solution. Là, il m'intéresse moins. Mais disons, à l'époque, il était incroyablement. Et puis, il était rigoureux philosophiquement. C'était tout de même un autre niveau. Il y avait un rapport à la phénoménologie, à Derrida et tout ça. Donc, ça, c'était important. Et puis, bien sûr, le collège de philosophie, puisque moi, j'étais parisien. Je suis parisien au départ. Et donc, quand j'étais étudiant en philosophie à Paris 1, j'allais régulièrement au collège de philosophie, qui était un lieu d'expérimentation intellectuelle, puisque il y avait des séminaires qui étaient sur des projets, sur des sujets totalement annexes, en marge, et donc absolument centraux comme d'habitude, dont je me souviens d'un séminaire sur l'anthropophagie avec Jean Morel et Patrice Leroux, qui ont été deux de mes professeurs et qui formaient un duo incroyable de conférenciers. Puis l'école des hautes études aussi, où j'ai suivi pendant longtemps le séminaire de Derrida. Donc voilà, donc ça c'était vraiment la formation intellectuelle. Et sur Travers, j'aimerais revenir sur ça, parce que, en fin de compte, la France, qui a pris un peu de retard sur ces questions, a été, avec les immatériaux et avec la revue Traverse, en avance pendant toutes les années 80 et au début des années 90, et puis à un moment, il y a eu un tournant. Mais intellectuellement, il y avait une singularité de la pensée française et de la pratique française, puisque Travers, c'était typiquement la rencontre entre des intellectuels, comme Bernard Stiegler, comme Derrida, et des artistes, hein, bah, Edmond Cuchot.
Il n'y a qu'à citer, par exemple, je t'interromps, mais le sommaire de ce numéro Machine Virtuelle, où on voit se côtoyer Boulez, Manoury, ben Stiegler, Virilio, voilà.
Edmond Cuchot, Jean-Pierre Balpe, des gens avec qui j'ai travaillé après, hein, comme Jean-Pierre Balpe, avec qui on a fait plusieurs travaux. Et c'était le moment où intellectuels et artistes se rencontraient. Non pas parce que les intellectuels venaient commenter le travail des artistes, ce qui n'a jamais été très intéressant, mais parce qu'ils avaient des objets en commun. Et ça, c'est quelque chose qui a été une période très particulière du Centre Pompidou, qui a été la grande période du Centre Pompidou, quand c'était vraiment un lieu interdisciplinaire et d'expérimentation, et qui est un moment qu'on retrouve depuis 4-5 ans, non pas à Beaubourg, mais dans le monde, c'est-à-dire une vraie rencontre entre des intellectuels, des philosophes et des artistes, non pas autour de travaux artistiques, mais autour d'objets communs.
Ben, merci pour ces précisions et puis ces anecdotes, mais qui recontextualisent bien toute une époque, comme tu viens de le dire. Et puis alors, peut-être maintenant évoquer ce document, parce que tu disais dans l'introduction que justement ce nouveau séminaire intitulé
L'imagination
artificielle était important pour toi, parce que tu estimais que c'était pas assez présent. Et je trouve que, ben voilà, encore une fois, moi n'étant pas spécialiste, mais moi c'est mon regard, on va dire, des sources et de la bibliothèque, qu'il y a un exemple dans l'histoire, c'est l'école d'art d'Aix-en-Provence, avec dès les années 90 une des initiatives pionnières.
Encore là, un lien biographique avec ce art commission, avec celui-ci, puisque j'avais 23 ans. Et j'y suis allé. Je suis allé à Aix-en-Provence quand il y a eu. Alors c'était un séminaire, une exposition. Il y avait Stellar, il y avait différentes personnes. Et c'était vraiment sur complètement. C'était un moment très important. Et j'y suis allé avec un ami, Christian Sommer, qui maintenant est aux archives Husserl, le philosophe spécialiste de Heidegger. Donc on y a été tous les deux, jeune étudiant en philosophie. Et on était là, et on était absolument enthousiastes par, en particulier, la performance de Stellark. Et c'est vrai qu'à l'école d'Aix, sous la houlette de Louis Beck, qui a été très important avec un travail très singulier, et puis c'est là aussi que j'ai découvert. Quand j'étais à l'école d'Aix, pour ce séminaire, j'ai passé à la bibliothèque. Je suis allé à la bibliothèque et j'ai vu les vidéos de Wilhelm Flusser et les cours de Wilhelm Flusser, dont un cours sur le silex complètement fou, qui est magistral sur la question de la technique et du déchet. C'est un cours magistral de Wilhelm Flusser. Et donc, ça a été aussi la rencontre avec cette pensée, qui surtout s'est répandue en Allemagne, même s'il a enseigné longtemps à Aix, qui a été pour moi un moment très très important. Et un moment aussi où, à Aix-en-Provence, se rencontraient des artistes et des théoriciens, dans un moment, il faut s'imaginer, d'expérimentation, vraiment. C'est le caractère expérimental de ces choses-là, c'est-à-dire expérimental au sens où, d'une pensée, d'une action indémêlable qui s'effectue. Et c'est vrai que là, il y avait plein de choses qui se tentaient. On sentait bien que c'était totalement tâtonnant et absolument passionnant. Donc je me souviens très bien qu'on a squatté chez un ami qui était en histoire de l'art à Aix. C'était vraiment
un
petit studio, ouais, c'était vraiment l'aventure, quoi. Et on connaissait personne, on allait là. Et
voilà. Si je dis pas de bêtises, Flusser vivait-il encore?
Non, 94, je pense, je suis non. Pas sûr, c'est 94, Art Commission, oui. Je pense qu'il. Il était déjà décédé dans des conditions, un accident de voiture, en revenant dans son pays natal, quoi. Il y a toute cette histoire-là aussi chez Flusser. Ouais.